BPM. Élections législatives 2022.
Et bienvenue sur BPM. Si vous venez de nous rejoindre, les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin. À cette occasion, BPM vous propose des émissions spéciales. Les candidats pour la 5e circonscription de l'Eure viennent répondre à nos questions et nous accueillons aujourd'hui Pierre-Yves Jourdain, candidat de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Pierre-Yves Jourdain, bonjour.
Bonjour.
Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, vous avez 44 ans, vous êtes chef d'entreprise à Vernon. Vous êtes candidat avec comme suppléante Martine Seguela, conseillère régionale de Normandie, élue d'opposition aux Andelys et à Seine-Normandie agglomération. Alors, première question tout d'abord, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous présenter pour ces élections législatives ?
Parce que comme beaucoup de mes concitoyennes et mes concitoyens, je trouve que les politiques qui sont menées ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Et qu'après avoir cherché pendant longtemps une offre politique qui pourrait me correspondre, je me suis dit que finalement, autant se la créer soi-même. Et que si on partait dégoûté de ce milieu, c'est qu'on y laissait les dégoûtants. Et que j'avais envie peut-être de réenchanter un petit peu l'engagement militant, la politique. Et que je crois, parce que j'ai croisé des gens qui l'ont fait, je crois qu'on peut changer des éléments de la vie publique, des politiques publiques qui changent la vie des gens. J'ai vu ça par le biais d'élus locaux, de parlementaires qui s'emparent de sujets, qui mènent des combats et qui changent la vie pour des centaines, si ce n'est des milliers de gens. Et donc, voilà, on a envie de croire que c'est possible et on y va.
Autre question, les élections présidentielles ont eu lieu il y a pas si longtemps que ça. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de la réélection d'Emmanuel Macron ?
Que la stratégie de faire la courte échelle à l'extrême droite et à ses idées de repli national pour pouvoir agiter un épouvantail a marché. Par contre, en termes de fond et en termes de programme, on n'a pas vu grand-chose. C'est une campagne qui s'est fait que sur la peur, avec des électeurs qui ont voté Macron parce qu'ils avaient peur de Le Pen, des électeurs qui ont voté Le Pen parce qu'ils avaient peur de Mélenchon, et des électeurs qui ont voté Mélenchon parce qu'ils avaient peur de Macron. Voilà, tout ça tourne en rond et en boucle. Mais je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu de débat de fond sur les choix de société qui arrivent. On est face à une crise économique, une crise sociale, une crise climatique qui est énorme, qui est sans commune mesure depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et on n'a pas entendu dans l'espace public un débat sur les choix de société qu'on a devant nous qui nous permettent de traverser ces crises.
Justement, depuis un an, on connaît une inflation qui continue d'augmenter avec plus 5,2%. Qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, pour améliorer le pouvoir d'achat pour les Français et les habitants de la circonscription ?
Alors, très immédiatement, une des premières mesures de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, c'est un blocage et même une baisse des prix des produits de première nécessité. Il faut stopper cette inflation directement, pas en faisant des chèques et en distribuant de l'argent, mais en bloquant les prix. On a vu d'ailleurs sur l'essence que le cadeau de 18 centimes est complètement invisible dans le prix à la pompe puisque ça continue d'augmenter. À plus long terme, la réalité aussi de cette inflation galopante, on l'a vu aussi pendant la crise sanitaire, et là on le voit avec la crise internationale qui était en gestation depuis 8 ans, parce que la situation en Ukraine n'est pas nouvelle. Mais on est beaucoup trop dépendant d'importations et d'exportations et des flux de transport. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, quand un bateau de transport s'est mis en travers du canal de Suez et que l'économie mondiale a été bloquée pendant quasiment un mois à cause des approvisionnements. Donc ça, c'est tout ce système économique qui fait qu'on est très dépendant d'importations et que nous ne sommes plus autonomes. Et je vais même plus loin, nous ne sommes plus autonomes en tant que pays, parce que quand on est dépendant pour notre approvisionnement en énergie de pétromonarchie du Golfe ou de Vladimir Poutine, sans qui on ne peut pas se chauffer, faire tourner nos usines, faire le plein de nos voitures, on est pieds et mains liés pour nos politiques étrangères. Ça, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On relocalise nos productions. Ça fait plus d'emplois. On a délocalisé à Gogo. Rien que sur la ville de Vernon, il faut voir qu'en une dizaine d'années, c'est près de 2000 emplois ouvriers qui ont été supprimés. Et en face, on a créé pas tout à fait 200 emplois de cadre. Ça correspond au solde des gens qui arrivent et qui partent de cette ville. Mais quand on supprime des emplois et qu'on ne recrée pas d'activité derrière, les gens s'en vont. Donc là, c'est ça qui peut permettre de redynamiser notre territoire, mais puis aussi de redonner du pouvoir d'achat, parce que ces emplois dans l'industrie qui doivent revenir sont des emplois qualifiés, et entre autres, ils vont devoir être qualifiés parce que notre industrie se doit d'être beaucoup, beaucoup moins polluante. Elle doit être résiliente par rapport aux problématiques du réchauffement climatique. Et ça aussi, ça va être redonner du pouvoir d'achat aux gens, parce que les rémunérations vont augmenter. Et puis, dans les autres mesures qui sont assez immédiates, il faut un coup de pouce sur le salaire. Au cours de cette campagne, moi, j'ai rencontré des retraités qui ont toutes leurs annuités, qui ont travaillé toute leur vie et qui ont des retraites à moins de 800, 900 euros par mois. C'est inadmissible. Aujourd'hui, on a un salaire minimum qui est à 1300 net quand on arrive à avoir un temps complet. Nous, on propose de le remonter à 1500 euros net, de rattraper ces dizaines d'années où on s'est contenté de faire l'augmentation réglementaire sans mettre de coup de pouce. Et cet argent, en plus, qu'on mettrait dans les bas salaires, dans les minimums de vieillesse, dans les salaires planchers, dans les branches professionnelles, c'est de l'argent qui va aller directement dans la consommation et dans l'économie du pays. Et donc, c'est aussi ça qui va nous permettre de retrouver un petit peu d'activité économique locale et pas des grandes activités financières internationales, et refabriquer de l'emploi qui, lui, n'est pas délocalisable.
On reviendra sur l'emploi dans quelques instants, mais juste avant, je voulais qu'on revienne aussi sur cet autre sujet, ce débat qu'il y a actuellement autour de la réforme de retraite à 65 ans. Vous, si vous êtes élu, vous voterez pour ou contre cette réforme ?
Bah, évidemment que je vais être contre la retraite à 65 ans. Il ne faut pas se fier que à ses expériences personnelles, mais mon père est mort à 59 ans, il n'a jamais pris sa retraite. On sait qu'un quart des travailleurs les plus pauvres, ceux qui ont des toutes petites retraites, meurent avant d'arriver à la retraite. C'est pas en augmentant l'âge de départ à la retraite qu'on va améliorer ces statistiques-là. Par ailleurs, il faut savoir que les derniers chiffres qu'on a en Europe sur l'organisation du travail montrent que la France est aujourd'hui le pays où on meurt le plus au travail. En termes d'accidents du travail, on est le plus mauvais pays de l'Union européenne. Donc il y a une difficulté sur le travail qui abîme les gens aussi, en tout cas certains métiers, dont la pénibilité tarde à être reconnue. Certaines maladies professionnelles, je vais pas m'étendre, mais j'ai un vrai sujet autour du burn-out, sur lequel il faut vraiment qu'il y ait une reconnaissance nationale de cette maladie et du fait que son origine est essentiellement professionnelle, et on dédouane trop souvent les entreprises de leur responsabilité dans cette maladie. Toujours est-il que toute cette souffrance au travail, elle se retrouve aussi dans la question de l'âge de départ à la retraite. La Cour des comptes le dit, le système est à l'équilibre avec la retraite à 62 ans, telle qu'elle existe aujourd'hui, et le système est à l'équilibre. Est à l'équilibre en 2050. Donc la question qui nous est posée, c'est comment on finance ce système qui est la sécurité sociale, et entre autres le volet retraite, pour les 20 prochaines années, le temps que ça revienne à l'équilibre. On peut financer la retraite à 60 ans. Et non seulement on peut le faire, mais on doit le faire pour la santé des gens, pour le fait que de toute façon, dans un monde où la productivité augmente parce qu'on a des gains sur les machines, sur les outils, on a de plus en plus de métiers du tertiaire et l'informatique faisant tout un tas de progrès, on a ce gain de productivité. Le sens de l'histoire, c'est la réduction et le partage du travail. Et c'est pas en augmentant le nombre d'annuités et le nombre d'années qu'on doit passer au travail que ça va s'améliorer. Avec la retraite à 60 ans, ce qui était déjà une demande de la gauche il y a 40 ans, donc il faut voir la question de la régression sociale, une mesure qui était là il y a 40 ans sur laquelle on doit encore se battre, c'est quand même compliqué. Ça n'empêche pas du tout les gens qui s'épanouissent au travail et qui le vivent bien de travailler au-delà de 60 ans, de travailler jusqu'à 65, même jusqu'à 70 ans. Je connais des gens qui à 70 ans travaillent encore et qui sont heureux, mais il y a plein de gens qui ne peuvent pas se le permettre, et c'est pour ces gens-là qu'il faut permettre une porte de sortie tôt du monde du travail. Et le financement, il y a plein de solutions, mais il y en a une première qui me vient à l'esprit. Il n'y a pas de cotisation sociale sur les dividendes. Or, les dividendes sont des revenus. Et là, il y a une ressource d'argent qui n'est pas exploitée. Je ne parle même pas des 100 milliards de fraude fiscale qu'il y a par an. Donc de l'argent, quand on veut le trouver, on le trouve. C'est une question de volonté politique, pas un problème de compte de l'État.
Alors pour en revenir sur votre programme, du coup vous en avez parlé forcément dans la réforme, dans votre avis sur la réforme de retraite à 65 ans, avec le temps de travail, vous désirez du coup le passage aux 32 heures dans les métiers pénibles ou de nuit immédiatement et leur généralisation par la négociation collective, ainsi que la réduction du temps de travail annuel avec notamment une sixième semaine de congés payés.
Mmh. Bah, on en revient, hein. C'est le sens un petit peu de l'histoire et des conquêtes sociales. On peut se permettre de travailler de moins en moins parce qu'on a des outils qui sont de plus en plus performants. Faut savoir que si les Français avaient la même productivité que les Allemands, par exemple, nous serions au plein emploi. Aujourd'hui, il y a du chômage en France parce que les travailleurs français sont trop efficaces, entre guillemets. Et donc, et collectivement et individuellement, la réduction du temps de travail avec maintien du salaire, c'est aussi partager la richesse dans ce pays, parce que les deux sont liés. Et on a plein d'études, depuis pas seulement 5-6 ans, depuis une quarantaine d'années, qui montrent que notre cerveau, nos capacités cognitives, et je le dis, il y a de plus en plus de gens qui travaillent dans le tertiaire et de moins en moins de gens qui sont dans le secteur ouvrier parce qu'ils sont remplacés par des machines, et dans le tertiaire, au-delà de 30 heures par semaine, notre cerveau commence à dysfonctionner. Et si vous travaillez 50 heures par semaine, pour la plupart, et ça c'est, j'ai encore lu une étude japonaise récemment sur cette question-là, au-delà de 30 heures, on commence à défaire ce qu'on a fabriqué les heures précédentes. Donc même en termes d'efficacité au travail, la réduction du temps de travail est positive. On a plein d'expériences qui sont menées, y compris par des gouvernements aujourd'hui dans le monde. Je pense à la Finlande, à la Nouvelle-Zélande. Il y a même eu une expérimentation dans certaines communalités britanniques. Donc, c'est en train de se faire. Moi, je vois que tous les pays qui expérimentent, c'est plutôt des démocraties nordiques ou au Canada, où il y a un indice de, ou même en Alaska, où il y a un indice de développement humain qui est très élevé, et que tous les pays où on commence à exploser le code du travail pour augmenter au maximum le nombre d'heures travaillées par semaine, c'est en général des pays qui ont des petits problèmes avec la démocratie et la répartition des richesses. Donc voilà, les raisons, elles sont partout. Et puis, quand même, une dernière chose aussi, moi, je fais partie de ces gens qui ont la chance d'avoir un travail qui les passionne, et on ne fait pas ça que pour l'argent, c'est aussi une façon de s'accomplir et de se réaliser dans la vie. Il y a plein de gens pour qui ce n'est pas le cas. Tout le monde n'a pas choisi son travail, tout le monde n'est pas forcément hyper heureux au travail. Je vous parlais du burn-out tout à l'heure. C'est aussi une réalité, c'est de ne plus en pouvoir parce qu'on n'a pas les moyens de travailler correctement. Et aussi, c'est du coup la réduction du temps de travail, une question de santé mentale et de pacification sociale. Les gens ont besoin de temps pour s'occuper de leur famille, pour s'occuper d'activités bénévoles, en tout cas pour faire autre chose que le travail, parce que nous ne sommes pas que notre travail. Et ça, c'est important aussi de remettre cette valeur dans notre société.
Passons maintenant au volet écologie de votre programme. Vous souhaitez inscrire dans la Constitution la règle verte. Qu'est-ce que c'est que la règle verte ?
En fait, c'est assez simple. C'est de dire qu'on ne peut pas prendre plus à la planète qu'elle ne peut nous restituer. On a des règles aujourd'hui économiques qui disent que on ne peut pas dépasser un certain déficit, un certain écart à ressources financières dans les comptes publics. C'est comme ça que ça fonctionne. Et il faut réaliser que nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir une dette écologique. Quand on épuise les ressources en eau, comme on le fait aujourd'hui, nous sommes début juin, on est en stress hydrique, on se demande déjà comment on va pouvoir arroser certaines récoltes cet été, on est déjà en pénurie d'eau, quand ces ressources sont là, on ne peut pas les exploiter plus qu'elles ne se reconstituent. Parce que sinon, on va dans le mur, tout simplement. Le mettre dans la Constitution, ça permettra désormais dans les politiques publiques mais aussi dans les politiques des dans les stratégies des sociétés privées de prendre en compte l'impératif écologique et climatique dans les politiques qui sont mises en place pour ne pas avoir à le payer plus tard dans un coût qu'on ne pourra plus assumer parce que là ce ne sera pas une question d'argent, ce sera tout simplement une question de survie de l'humanité. Donc voilà, cette règle on veut la mettre dans la Constitution et par ailleurs moi je vois aussi en tant qu'écologiste que depuis plusieurs années on gagne des choses du côté de l'écologie en menant des combats juridiques. Je pense en particulier à la pétition qui a été lancée, entre autres, par mon amie Marie Toussaint, mais pas seulement, avec Oxfam et Greenpeace, les Amis de la Terre, et bien sûr Notre Affaire à Tous, qui a été signée par plus de 2 millions de personnes et qui a permis d'attaquer l'État en justice. Et cette procédure a été couronnée de succès. L'État a été condamné pour inaction climatique. Ce recours au juridique, il se développe de plus en plus en France et en Europe, et c'est un vrai levier d'action. Inscrire la règle verte dans la Constitution pourra nous permettre, justement, sur tout un tas de climaticides, d'attaquer directement en justice les gens qui dépassent les bornes.
Continuons maintenant avec le domaine de la santé. Les déserts médicaux font partie de vos priorités sur le territoire de l'Eure, comme un peu partout en France. Quels sont les leviers dont vous disposez pour remédier à ce problème ?
Alors déjà, je vous corrige juste un tout petit peu, c'est pas comme partout en France. Nous sommes le pire département en termes d'offres de santé de toute la métropole, et même certains dom-toms sont mieux dotés que nous en offres médicales. Donc clairement, sur notre territoire, c'est une urgence. Hier, il y avait une mobilisation sur l'hôpital public, il y a une mobilisation du personnel soignant, que ce soit à Gisors, aux Anglis, et même ici à Vernon, sur le manque de moyens de l'hôpital. On parlait du burn-out, c'est massif dans le personnel soignant. Il y a un vrai sujet qui sont tous ces salariés qui quittent la profession parce qu'ils n'en peuvent plus et qui sont en reconversion. Et donc, elle vient de là aussi, la pénurie, c'est que on n'arrive même pas à remplir les écoles d'infirmières. L'institut de formation piloté par la région n'arrive pas à pourvoir tous les postes en formation. Donc évidemment, si on n'en forme pas assez, on n'en a pas assez de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Pour moi, la problématique, c'est que c'est une logique qui est à l'œuvre depuis au moins 40 ans sur le détricotage et la casse des services publics, avec une idée en tête. Il y a trop de fonctionnaires, il faut en supprimer. Il y a trop de fonctionnaires, il faut en supprimer. Mais en fait, le fond de tout ça, c'est qu'on va déléguer tout un tas de services publics, et la santé au premier chef, au privé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en oncologie, donc des gens qui risquent leur vie, quand on leur fait un diagnostic sur un cancer, dans l'hôpital public, on va leur dire « vous avez du coup un rendez-vous dans 3 mois, dans 4 mois ». Par contre, en médecine privée, qui est à l'intérieur de l'hôpital public avec une location et un reversement, par contre, en médecine privée, ce qui n'est du coup pas au même tarif, qui n'est pas remboursé de la même façon par la Sécu, là, on peut avoir un rendez-vous en quelques semaines. Quand c'est sa vie qui est en jeu pour une opération cruciale, quand on a les moyens, on ne se pose pas la question. Quand on n'a pas les moyens, eh ben on meurt. Ça, c'est très choquant, ce système à deux vitesses. Et puis, on pourrait le décliner sur la question des transports, où j'ai un adversaire qui est élu régional et qui ne se cache pas que la solution pour lui au train, c'est de privatiser le rail normand. C'est pas comme si les trains marchaient très bien aujourd'hui. Il y a une dégradation du service depuis une dizaine d'années qui est catastrophique. Et ben non, ils veulent continuer là-dedans, à ne pas donner les moyens au service public de fonctionner pour dire ensuite qu'on va les revendre au privé. Et il y a ça sur le système de santé, on a fait plusieurs erreurs. Il y a la question de la tarification à l'acte qui rend calculé à l'aune de ce que ça coûte et pas uniquement du service rendu. Or, dans ce système-là, on ne calcule pas les externalités. On a un énorme surcoût du système de santé parce que comme le système est compliqué et cher, les gens tardent à se faire diagnostiquer, à aller voir leur médecin. Même plus grave, ici, comme il faut en moyenne 5 ou 6 ans pour trouver un médecin traitant, on est complètement coupé du parcours de soins. Le seul endroit où on peut aller se faire soigner, c'est aux urgences. Or, je discutais avec des syndicalistes de l'hôpital pour avoir un peu une idée de la situation dans les établissements de santé ici. Les 3/4 des gens qui vont aux urgences ne relèvent pas de l'urgence. Ils vont aux urgences parce qu'il n'y a pas d'autres offres de soins. Donc la logique générale, de ce point de vue-là, elle n'est pas qu'il y a trop de fonctionnaires, c'est qu'ils sont pas assez déployés. Ils sont trop soumis à des contrôles et donc à un remplissage de papiers pour faire de l'administratif, pour vérifier qu'on reste dans les comptes. Mais de l'autre côté, on ne calcule pas le service rendu et le fait que cette santé, mais c'est pareil à l'éducation nationale, c'est pareil dans les transports, en fait, c'est un gain pour la société. C'est un gain d'être en bonne santé tôt. C'est un gain d'être bien éduqué parce qu'on va être meilleur dans sa vie et au travail. C'est un gain pour la société d'avoir des transports en commun qui fonctionnent partout et ne pas être contraint par sa voiture et la dépendance au pétrole. Et c'est ça qu'il faut remettre. Et je rajouterai dans les services publics la question de la sécurité et de la police. Les policiers sont un des métiers qui souffrent le plus en France. Il y a un des plus forts taux de suicide par rapport au métier. Et c'est comme dans tous les métiers qu'on vient de citer auparavant, comme la santé, parce qu'ils n'ont pas les moyens de travailler correctement. Donc, sur l'hôpital, il faut remettre des fonds, il faut revaloriser les salaires, mais en premier lieu, donner les moyens aux soignants de travailler correctement. On a vu des soignants remplacer des blouses par des sacs poubelles pendant la crise Covid. On a vu des lits fermés en disant dans le même temps, nous manquons de lits. Et donc, voilà, il y a un plan de réorientation, ça va prendre des années parce que nous n'avons pas les infirmières, il va falloir former le personnel, il va falloir leur donner les moyens de travailler correctement, et là on a un chantier énorme devant nous. Et par ailleurs, il va falloir aussi réfléchir à une offre de soins qui soit intermédiaire entre l'hôpital d'un côté, public ou privé, et le cabinet individuel. Il faut des offres intermédiaires, développer les maisons de santé, aider les départements, et là pour le moment c'est le vide complet.
On va terminer cette émission parce qu'on s'approche, on est déjà très très proche de la fin. En quelques mots, je voulais quand même qu'on aborde cette mesure phare, le passage à la 6e République, et en finir avec cette monarchie présidentielle. Voilà, en une trentaine de secondes, qu'est-ce que ça signifie ?
Eh ben, en fait, on peut déjà en avoir un avant-goût dès cet été, en votant pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale, parce que en étant dans un épisode de cohabitation, on retrouverait un fonctionnement parlementaire. Il faut savoir que lors de la présente mandature, 80% des lois étaient à l'initiative du gouvernement. Il faut inverser ce rapport. Le Parlement doit être à l'initiative des lois et l'exécutif doit être un exécutif, pas l'inverse. Et donc, il faut redonner son sens entier au Parlement avec plus de démocratie, la révocation des élus, le référendum d'initiative citoyenne, que les gens puissent enfin se sentir écoutés dans la République et que les députés fassent leur travail en allant vers leurs électeurs et vers la loi. Et pas en étant dans cet absentéisme forcé. Une des premières mesures qu'on pourra mettre en œuvre sans passer complètement à la 6e République, c'est déjà de changer ce système de scrutin qui rend tout le monde fou. On est le seul pays sur 27 dans l'Union européenne à utiliser ce mode de scrutin majoritaire, la proportionnelle, qui permet à diversité des courants politiques d'être représentés dans l'espace public, qui se pratique dans les 26 autres pays de l'Union européenne, permet quand même un meilleur fonctionnement démocratique. Et puis, la réalité de cette 6e République, c'est que c'est les citoyens qui vont la fabriquer, parce que nous, ce qu'on veut, c'est une constituante, évidemment, faite avec de la proportionnelle.
Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci Pierre-Yves Jourdain d'avoir accepté notre
invitation. Merci de m'avoir accueilli. Au revoir.
Cette interview sera rediffusée aujourd'hui, également à midi et à 18h. Et vous pourrez la retrouver en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com, rubrique podcast, puis élection législative. À 8h30, c'est François Auziaux, maire de Vernon et candidat de la majorité présidentielle Ensemble, qui sera notre invité. Excellente journée à l'écoute des programmes de BPM.
BPM, élections législatives 2022.